Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Level when you talk dirty.
Putain, mais alors j'ai passé 2h20, mec. Il me tarde trop de voir la suite, hein. J'espère, j'ai vu la bande-annonce. Ils avaient fait une bande-annonce où mélange des images des deux volets du film. Alors, il y a des trucs, je me dis. Alors, j'ai vu le film, je me suis dit, ok, Space Opera, tout ce que tu veux. Puis j'ai fini le premier film, je me suis dit, bah, j'espère qu'il va mettre des trucs dans le deuxième, parce que sinon, où sont passés les choses. J'expliquerai pourquoi. Il ne se passe strictement rien dans Rebel Moon. C'est un truc de fou, en fait. Mais j'ai décidé finalement d'en parler parce que je trouve quand même super symptomatique de ce qu'est le cinéma populaire aujourd'hui. Je ne vais pas comparer ça, je ne vais pas dire le cinéma va mal, mais je dis dans les films qui ont velléité à être des gros blockbusters populaires d'action, fantastique, SF et tout ce que tu veux, la norme c'est devenu ça. Et ça pose quand même des problèmes majeurs parce que ces types-là ne savent plus raconter une histoire, tout simplement. Bring it on.
Don't fuck with me.
Allez, où est la caméra? Là, non, c'est pas celle-là.
C'est celle-là.
Salut, c'est Yannick Daran, et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, on s'attelle à ce que Netflix espère être son grand événement de fin d'année, le très attendu, surtout pour les fans du réalisateur, Rebel Moon, Children of Fire, ça promet, première partie d'un diptyque qui se voudrait Space Opera, et qui se présente, soleil et trompette, comme le Star Wars de Zack Snyder. Ce qui, dans la formulation, et à l'instar du Napoléon de Ridley Scott, me faisait déjà pouffer de rire, distillant insidieusement l'idée que nous devrions tomber en pamoison devant cette décision d'un Zack Snyder canonisé d'enfin daigner s'atteler à ce vieux classique poussiéreux qu'à n'en pas douter, il transcendra. Bien sûr, j'aurais envie de répondre « Et mon cul, c'est du poulet !» Mais je me garderai de cette grivoiserie, dont ceux qui défendent bec et ongle le bonhomme ne souffriraient d'aucune invective à son encontre, et peut-être non plus d'une argumentation structurée. Mais on a les apôtres qu'on mérite, et là encore, à l'instar de Ridley Scott, Snyder fait partie de ceux envers qui une mansuétude irrationnelle, certes circonscrite à des geeks autoproclamés, mais quand même, sert de fer de lance à un déni très contemporain qui fait que 2 plus 2 ne font plus 4, que des lapalissades de maternelle deviennent des pensées philosophiques et que la pose sans substance se perçoive en parangon du génie créatif. Mais si analogie il y a dans la perception que d'aucuns ont de Scott et de Snyder, elle fait quand même outrage au réalisateur anglais dont l'honorabilité tient encore sur 2 vrais chefs-d'œuvre, quand celle de Snyder doit davantage un statut victimaire qu'à l'empreinte que ses premiers films ont laissé dans l'histoire du 7e art. Comme si ses déboires professionnels dans sa période DC Comics l'avaient soudain transformé en outcast involontaire, voire en maverick hollywoodien, allons-y gaiement, justifiant de facto un nouvel éclairage lumineux sur ses premiers films, qui en sortirent ainsi grandi et désormais vendu comme les ovnis singuliers d'un auteur que le système aurait fini par castrer. Mais le fait est qu'on ne parle pas d'Alien ou Blade Runner ici, mais de l'Armée des Morts, 300 ou Watchmen, ce qui, au-delà de la sympathie qu'ils peuvent susciter, en dit long sur notre échelle des valeurs. Alors je ne sais pas si Rebel Moon, qui pousse jusqu'au néant intersidéral la vacuité inhérente à sa filmographie, bénéficiera à son tour du même aveuglement, mais peu importe. Ça aura beau prendre du temps, un jour ou l'autre, fantasmes et déni, aussi puissants soient-ils, finissent toujours par se heurter à la douloureuse réalité.
We're just farmers, we're not a threat. They won't just kill us, will they?
You're delusional. You think those soldiers will show them mercy?
Stop.
we're gonna have to fight.
En réalité, justement, Rebel Moon a si peu de substance, tant visuelle que narrative, qu'il en est presque gênant d'en écrire une quelconque analyse. Car il est avant tout le miroir servile, pour ne pas dire le relais infantile, d'une hystérisation binaire de nos sociétés, dont le but semble être chaque jour de nous diviser davantage. Mais ceci est une autre histoire que je laisserai aux vrais philosophes, si tant est qu'il en reste. Ce pensant comme Napoléon, en défilé de mode d'image aussi chargé d'effets que vide de toute idée, de tout sens, de toute velléité autre que le néant conceptuel, Rebel Moon incarne à lui seul tous les travers de la fiction contemporaine prétendument populaire. Plan, découpage, lumière, le film n'est qu'un maelstrom de référence pour geek moutonnier qui n'a même pas l'intelligence d'aller piocher dans un pan oublié du cinéma, plagiant sans honte le design de tout ce qui se fait depuis à peine 10 ans au cinéma, à la télé ou dans le jeu vidéo. Pire, il va carrément pomper non seulement les plus gros cartons récents, mais leurs scènes les plus iconiques, la palme allant, comme je l'ai dit, à celle où un perso doit dompter une créature volante, comme dans cet obscur film de celui qui se revendique être le roi du monde, mais qui n'est sans doute qu'un nain pour Snyder, puisqu'il se permet, en se carrant l'archouma là où je pense, de le chercher sur son propre terrain. Imaginez Macron et Mike Tyson dans un ring et vous aurez une idée de ce que ça donne. Si t'enlèves même ce néant-là, c'est que tout en termes de design, t'as tout déjà vu. Donc moi, je veux bien que tu vois encore raccrocher Zack Snyder à une micro-compétence de faiseur qu'il était à l'époque de, tu vois, de nouveau Michael Bay qui allait tout défoncer en termes d'action. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. T'as même pas d'action, t'as même pas de fun. C'est hallucinant. Et tout le film, c'est comme ça. Et puis sans honte. Hein. Moi, c'est un truc qui m'hallucine. Hein. Il y a un perso, c'est le chef des Uruk-hai. Mais genre, littéralement, quoi. T'arrives, tu fais, non, mais le design, mec, non, quand même, je sais pas, fais-lui un truc un peu différent. Non, le même moment, le seul moment où je me suis dit, ah, il est malin dans son pompage. À un moment donné, il y a une des nanas du film qui va se fighter une meuf araignée. Une espèce de grosse araignée comme ça. Et la tête, c'est copier-coller du méchant de Star Trek First Contact, de la reine des Borg. Qui se rappelle de ça par moi? Mais je me suis dit, eh ben voilà, mec, tu veux pomper, pompe un truc d'il y a 25 ans que personne n'a vu aujourd'hui, et ça passe crème. Mais non, ça, il le fait une fois. Tout le reste, tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu dans tout ce qui est sorti en jeux vidéo, séries télé et films dans les 5 années qui précèdent, quoi. Genre, c'est plus défendable au bout d'un moment. Mais bien sûr, si l'image se taylorise de façon si tristement technocratique en une ressucée marketing et sans âme qui se répète en boucle, c'est bien au niveau narratif que le château de cartes du cinéma actuel s'effondre. Comme si plus aucun réal, plus aucun producteur de blockbuster, empêtré dans les cases à cocher au détriment de tout le reste, ne savait raconter une histoire ou n'en comprendre que certaines bases syndicales, comme l'évolution des personnages par exemple, une idée complètement saugrenue dans un monde où l'on se rêve surhomme avant d'être simplement humain. Quoi, je dis j'ai dit plus aucun réal ou producteur, parce qu'évidemment, alors Zack Snyder qui s'est mis un réal, qui a fait le chef-op, rien de particulier, excuse-moi, tu vois, et qui s'est mis scénariste aussi, co-scénariste, c'est quand même un truc, bon, moi je le vis au quotidien, hein, maintenant que j'écris des trucs, c'est je peux même plus jeter la pierre à un scénariste, parce qu'en fait, tu ne peux plus savoir en réalité si la chose que tu vois et le produit d'un scénariste, puisqu'en général, il y en a 15 hein, qui sont rajoutés, et encore ceux qui sont mis au générique, et ils ne sont pas tous mis au générique, et qui sont rebidouillés par les réals eux-mêmes, et qui sont rebidouillés par les producteurs. C'est normal, hein, ça fait partie d'un processus créatif de groupe, mais moi, je le vois au quotidien. Je vois ce que j'écris et ce que ça devient. Donc, tu vois, tu te dis, ouais, il y a un monde qui passe, donc moi, je ne jette plus la pierre aux scénaristes, parce que pour ça que je dis producteur-réalisateur, parce que je sais qu'ils ont dû passer à 15 derrière pour enlever toute aspérité, hein. Mais bon, de sa filiation avec Star Wars, Rebel Moon n'a au final que son pompage éhonté des 20 premières minutes introduisant l'épisode 4. Mais il ne comprend évidemment rien à l'exposition de George Lucas, imitant le situationnel en niquant de l'intérieur sa raison d'être. À la place de Luke, on a donc une fermière, Zeitgeist oblige, dans le gentil village écossais, parce qu'il n'y a que des portes coulissantes pour marquer le contraste, est attaquée par des blondinés ariens fascistes nazis fringués comme la Gestapo. Sauf qu'au bout de 10 minutes, tu ne dis pas que la petite fermière innocente va devoir se confronter à l'horreur du monde, comprendre des enjeux qui la dépassent, apprendre petit à petit le sens de l'engagement, rencontrer un mentor pour découvrir son potentiel, s'entraîner encore et encore pour espérer transcender sa condition et avec l'aide d'une force mystique qui n'est autre qu'une spiritualité, être enfin en mesure de combattre le côté obscur. Non, tu ne te dis pas ça parce qu'au bout de 10 minutes, la Belle des Champs met une branlée en mode badass à Dinazi qui ricane comme dans Papa Schultz. Donc c'est déjà une brutasse, c'est déjà dès le début Wonder Woman, donc tu n'as plus rien à raconter. Ah si, peut-être. Rencontrer un à un pendant des scènes interminables des tonnes d'alliés qui chouinent comme des victimes, mais qui sont tous sans exception super badass, méga cool, vas-y que je te fais une contre-plongée avec flair au ralenti au cas où. Je suis fatigué moi-même sur ma phrase. Et à part ça, bah rien. À part un traître peut-être que t'as vu venir dès le début et qui se voudrait ersatz de Yann Solo, mais sans comprendre que le principe même de Yann Solo est de finir par refuser la traîtrise. Je déconne pas quand je te raconte l'histoire en 2 minutes. Je ne déconne pas. C'est-à-dire les 25 premières minutes du film. En termes de situationnel, ça revient au début de Star Wars. Hein. T'es dans ton univers naturel, t'es un pauvre paysus. Donc le monde vient dans ton univers naturel pour créer un problème. Et puis t'es censé en sortir, t'es censé découvrir des gens qui vont te donner quelle est ta destinée, ton épreuve, tes alliances. Bon, Star Wars quoi, tu vois. Le mec il fait la même chose, on a même Mos Eisley. Hein. Ils vont même dans la petite ville à côté, dans le bar où ils ont tous des têtes bizarres. Ah non mais tout y est ! De base, ce situationnel existe parce que Luke Skywalker, c'est un mec lambda dans son environnement naturel. Alors peut-être plus tard, il découvrira qu'il est le fils de... Tu vois ? Mais pour l'instant, il est réellement un fermier qui n'a aucune idée de l'ampleur des enjeux qu'il va, et qui a une formation à faire. Il doit apprendre. C'est un arc narratif. Il va devoir se construire. Il ne devient pas maître Jedi à la fin du deuxième épisode pour rien. Et là, tu dis, donc, vous me prenez exactement les mêmes scènes. Mais à la moitié, la meuf, c'est Bruce Lee. Donc en fait, c'est, pour moi, c'est ahurissant. C'est-à-dire que pourquoi tu vas les copier si tu n'en comprends même pas le sens. Et comme derrière, vu que ta meuf, c'est Wonder Woman dès le départ, donc tu ne peux pas raconter les épreuves qu'elle va traverser, ce qu'elle va devoir subir pour pouvoir se construire, rencontrer un mentor, apprendre des choses, toute la dimension mystique, symbolique, intéressante dans Campbell, qui est justement universelle parce qu'elle n'est qu'une traduction des rituels de la vie. C'est ce qu'explique très bien Campbell. Donc qu'est-ce que fait le film ? Je te dis, il faut que je trouve un mentor. Je dis, ok, comme dans Star Wars, mentor, tu découvriras que c'est Jim Ounsou, c'est une espèce de général à la retraite, on ne sait plus où il est. Donc tu dis, ok, on va rencontrer Obi-Wan Kenobi. Sauf que non, Obi-Wan Kenobi a rencontré une demi-heure à la fin du film, en fait. Donc il faut bien combler le vide. Donc il faut que je fasse My Justice League Team, tu vois. Et c'est ça le délire. Et alors des alliés, donc je t'ai dit, le mec qui dompte une créature ailée, super originale. Après, une Asiate, qu'est-ce qu'elle fait l'Asiate ? Elle a un katana. Et elle sait se battre comme des samouraïs. Et j'ai pas vu ça 200 milliards de fois. Et puis après, avant de trouver un autre, jusqu'à tomber sur Jim Ounsou. Comment tu l'imagines, Jim Ounsou ? Où il a été découvert ? Où est-ce qu'on a commencé à parler de lui ? Ah, Gladiator. Alors, et il est torse nu, en esclave, attaché avec des chaînes et avec le bouc de Kratos. T'es là, oh, tu fais putain, non, les mecs, vous en ratez pas une. Non, mais toutes, vous me les faites toutes. Mais bon, on n'en est pas à une aberration près. Le public est sans doute trop con pour Snyder, au point qu'il se sent au final obligé de paraphraser dans la bouche de Jim Ounsou le néant qu'on vient de voir en surlignant des niaiseries thématiques sur l'émancipation et le fascisme que même un gamin de 2 ans n'aurait pas osé prononcer. La réalité, et j'en reviens à une référence philosophique, c'est que le film ne peut rien raconter d'autre qu'un pitch de RPG PlayStation d'il y a 30 ans, puisqu'il passe ses 2h15 à introduire des personnages qui se présentent comme des victimes, mais qui se bastonnent d'entrée comme des super-héros. Injonction paradoxale, si chère à nos sociétés dites civilisées, qui interdisent l'iconisation qu'elles forcent pourtant jusqu'à l'absurde, n'offrant que des coquilles vides, sans ancrage ni repère, autre qu'un éternel narcissisme culpabilisateur. Là encore, une tragédie très contemporaine, Rebel Moon n'étant qu'un fantasme d'émancipation faussement rebelle pour ados biberonnés au mantra publicitaire. Just do it, mais dans ta piole, les yeux rivés au métaverse. le nouvel ordre victimal, disait un jour Jean Baudrillard. C'est-à-dire qu'on essaye de te créer de l'empathie par une indignation fabriquée de toutes pièces sur des gens qui seraient donc victimes du système. Mais comme ce n'est pas assumé de faire des drames indignés et culpabilisateurs sur le sujet, on te dit non, mais en même temps, ils sont super forts. Donc tu dis, bah, mais alors c'est quoi? Vous êtes schizo, les mecs! Donc c'est soit des brutasses, mais dans ce cas-là, ils arrêtent de chouiner dans les jupes de l'héroïne pour dire combien ils ont souffert dans leur vie. Soit ils ont souffert dans leur vie et ça en fait potentiellement des persos intéressants avec des problèmes à régler. Et des choses, non! Ils n'ont pas de problèmes à régler! Les personnages féminins doivent être des Wonder Woman dès le début du film. Alors que tu as envie de dire que les personnages féminins de blockbuster, les plus ancrés dans l'inconscient collectif de tout le monde, qui peuvent être aussi bien Ripley que Sarah Connor, c'est des gens qu'on a vus évoluer, non seulement sur un film, mais des personnages féminins qu'on avait évolués sur plusieurs, et qui deviennent, pour le coup, des mythes et des icônes. Et c'est pas parce que tu vas me dire « Mon héroïne, c'est Wonder Woman !» qu'elle va rester ancrée dans ma mémoire. C'est parce qu'elle l'est qui te permet de devenir un mythe. C'est ce qu'elle devient. C'est les épreuves qu'elle passe. C'est le chemin qui est important. C'est pas l'arrivée, putain. Et ils comprennent pas ça. C'est un truc de fou. Et ça, c'est un peu un syndrome des algorithmes des plateformes qui te dit on doit avoir tout compris au bout de 5 minutes, ou la promesse de ta fiction, quelle qu'elle soit, doit être comprise rapidement. Et tout est drivé par ça. C'est-à-dire on a besoin de se créer des combats, mais qu'on ne comprend pas, qu'on n'assume pas, qu'on réduit à des dimensions binaires, mais bêtes, bêtes et méchantes. Moi, je m'en foutrais que ça soit débile, profond. Si au moins j'avais le Zack Snyder de Man of Steel qui me dit « Bon, j'ai un scénar, c'est une cacahuète, mais je vais vous mettre 45 minutes de tout le monde se pète la gueule et détruit la moitié de la ville, à la limite, ouais !» Tu vois, il n'y a rien. Les scènes d'action, elles ne sont pas spectaculaires. C'est pas kiffant dans le montage. C'est tout naze, ça ne tient. Maintenant, ça ne tient plus que sur 3 ralentis, tu sais, avec des petites explosions derrière des effets. Ah, ils sont jolis, il n'y a pas de souci. Les 3 ralentis sont jolis, mais ça ne fait pas une scène d'action, et ça ne fait pas du rythme, et ça ne fait pas du spectaculaire. Donc, tu n'as jamais un moment où tu fais « Waouh, c'est cool !» Jamais. Je vois mal maintenant comment après Army of the Dead et après ce Rebel Moon, il peut encore y avoir des gens qui vont réussir à construire une argumentation structurée pour défendre la chose, parce que c'est le néant. C'est le néant. C'est un film bête. C'est un film qui n'a rien à dire, rien à raconter, rien de nouveau, et qui a même pas, tu sens même pas une petite envie de réel de faire un truc qu'on n'ait pas vu ailleurs, quoi. Bon, enfin, c'est... Passons. Allez, disons. Bon, j'ai hésité longuement tout ça, mais je vais arrêter à partir de maintenant sur Zack Snyder, je pense, parce que, en fait, si tu veux, il est... c'est même plus un Zack Snyder. Pour moi, c'est un bidon de lessive. C'est un produit marketé typique. Il aurait pu être fait par un algorithme marketing de n'importe quelle plateforme et de n'importe quelle major hollywoodienne. C'est sans âme, sans idée, sans intelligence, sans rien. C'est creux, c'est intégralement creux.
Ouais, joyeux Noël, Yannick.
C'est Noël. Ouais, vas-y, donne-nous un truc à bouffer, là, à Noël, mec. Rattrapez vos Edgar Wright que vous avez raté, quoi. Vous voulez voir ce que c'est un film qui a vraiment, véritablement de la gueule, un mec qui sait tenir une caméra comme il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Bah voilà, tu te mates Last Night in Soho. En plus, tout le monde l'a snobé, le film. Il est sorti en plein Covid, tout le monde a oublié le film, il est passé inaperçu total. Rematez-vous Last Night in Soho, vous allez voir ce que c'est un film intéressant, quoi. Même si le sujet, c'est peut-être pas votre thème, c'est dingue, il n'y a pas de super-héros et on essaye de raconter quelque chose d'un peu plus. Ouais. Tu vois, mais bon, ne serait-ce que visuellement, le film te file une claque comme il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, voilà, il y en a plein en fait. C'est pas compliqué d'ailleurs, tu prends les réalisateurs en tant soit peu connus contemporains aujourd'hui, bah, tous leurs derniers films se sont bidés, donc rattraper les bides de grands réalisateurs plutôt que d'aller perdre 2h15 de votre vie, parce que franchement là. Bon, sur ce, 7 minutes Yannick Dan, c'est terminé sur un film pas très intéressant. Non, il n'y a pas beaucoup de choses très intéressantes, à part quelques bandes annonces de films qui vont sortir l'année prochaine, qui me tardent de voir, mais je dois les limiter à 2 à peu près, parce que ça doit être... Moi, j'ai envie de voir le Alex Garland, et bon, évidemment, j'ai envie de voir le George Miller. Pour l'instant, à moins que vous ayez vu des bandes annonces de trucs mortels, voilà, pour l'instant, ça se limite à 2, c'est un peu flippant. Hein. Donc, on se retrouve après les fêtes de Noël, j'imagine. Peut-être que je ferai un détour par stéroïde entre-temps pour parler du genou. Et donc, je vous dis à la prochaine fois. Voilà, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.